Elizabeth Taylor serait-elle, selon le titre de l'une de ses biographies, la dernière star ou l'ultime produit de l'âge d'or des grands studios? Les rôles ont épousé les âges et les apparences. Elle a franchi les années avec une volonté farouche, ne se laissant jamais enfermer dans les stéréotypes auxquels on aurait voulu la réduire. La Cinémathèque française rend hommage à l'actrice de Soudain l'été dernier et Qui a peur de Virginia Woolf en proposant une rétrospective de sa riche filmographie du 1er décembre au 5 janvier 2022.
Une histoire de cinéma, un podcast revu et corrigé, coproduit par le Mouvement Up, présenté par Antoine Julien.
Nous sommes en 1961 au studio de Cinecittà. Elizabeth Taylor s'apprête à tourner la séquence la plus impressionnante du film Cléopâtre, réalisé par Joseph Mankiewicz. C'est l'entrée triomphale de la reine d'Égypte dans Rome. Elizabeth Taylor est fébrile. Depuis quelque temps, des rumeurs de liaison avec l'acteur Richard Burton, qui joue Marc-Antoine, bruissent dans la presse, qui s'intéresse de très près au couple illégitime. Pour alimenter ces rumeurs, un journal italien déclare que c'est Joseph Mankiewicz et Liz Taylor qui ont une aventure et que Burton sert seulement de couverture. Burton réplique en lançant à Mankiewicz « Monsieur Mankiewicz, est-ce que je dois encore coucher avec elle ce soir ?» Mais Mankiewicz affirma non sans malice « La vérité, c'est que Richard Burton et moi sommes amants. Elizabeth Taylor nous sert de façade, avant d'embrasser Burton sur la bouche. » Elizabeth Taylor et Richard Burton, harcelés par les paparazzi, sont tous deux mariés et le scandale finit par éclater. Pour le plus grand bonheur de la 20th Century Fox, qui, après avoir craint dans un premier temps des débordements à même d'arrêter le tournage, compte bien désormais profiter de ce coup de projecteur inattendu. Le scandale est tel que le Vatican finit par s'en mêler et fait part de sa désapprobation la plus totale, menaçant de clouer l'actrice au pilori et de lui retirer ses enfants. Arrivant sur un char monumental sur lequel trône une gigantesque statue de sphinx, Elizabeth Taylor, habillée d'une robe dorée recouverte d'une cape et parée d'une coiffe sculpturale surmontée de serpents entourant un soleil, hommage au dieu Ré, se retrouve au milieu de 7000 figurants italiens catholiques que le Vatican avait chargé de huer. Elle est terrifiée, le studio craint pour la sécurité de l'actrice et décide de poster des vigiles autour du forum pour empêcher toute tentative d'assassinat. Elle passe l'arche sur le sphinx de 10 mètres de haut, et au lieu de crier « Cléopâtre » comme il était prévu dans le scénario, les figurants ont tous hurlé amoureusement « Liz !» Liz Taylor a vaincu le pape, la révolution sexuelle est en marche. Elizabeth Taylor est née le 27 février 1932 à Londres. Elle est la fille de Francis Taylor, marchand d'art, et de Sarah Taylor, actrice. Comme Judy Garland 10 ans plus tôt, Elizabeth est poussée par sa mère vers les studios hollywoodiens. Elle rencontre le patron du studio Universal, Cheever Codin, qui mise beaucoup d'espoir sur sa fille. À 9 ans, il lui fait signer un contrat d'un an à $100 la semaine. Puis en 1942, le studio lui propose un petit rôle dans There's One Born Every Minute. Mais elle ne convainc pas et Universal rompt le contrat. Le père d'Elisabeth rencontre alors le producteur Sam Marks, qui cherche une actrice pour interpréter le rôle de Priscilla dans le film Lassie. Elle est payée 100 dollars par semaine, soit 150 de moins que sa partenaire canine. Elle fait surtout la rencontre de l'acteur Roddy McDowall, qui deviendra l'un de ses plus proches amis. Le succès du film fait d'Elisabeth Taylor une jeune star en herbe qui attire le regard du redouté et redoutable Louis B. Mayer, le patron de la MGM, qui lui offre un contrat de 7 ans en 1943. Elisabeth Taylor enchaîne les productions enfantines et adolescentes. À 13 ans, elle gagne déjà 300 dollars par semaine. Mais elle passe à côté de son enfance, prisonnière du contrat qui la lie avec la MGM et sous la coupe férule de ses parents. Elle veut absolument obtenir le rôle le plus convoité du studio, celui d'une cavalière émérite dans Grand National, et elle finit par l'obtenir. Mais plusieurs chutes de cheval survenues pendant le tournage lui provoquent un tassement de la colonne vertébrale. Ne supportant plus l'emprise exercée sur elle par la MGM, elle se révolte et défie Louis B. Mayer lorsque sa mère exigea de meilleurs rôles pour elle. Mayer, pris dans un excès de fureur, vitupère contre sa mère. « Vous voudriez m'apprendre à diriger mon propre studio ?» lui lance-t-il, entrecoupé de charmants noms d'oiseaux. Elisabeth, ulcérée, réplique à Mayer. « Monsieur Mayer, faites des excuses à ma mère immédiatement, ou je sors de ce bureau et vous ne me reverrez plus jamais. Moi, j'adorerais aller à l'école, au bal de fin d'année, au match de basket ou de football, et je me fous éperdument de ne plus jamais jouer la comédie de ma vie. » Mais le puissant mania ne veut pas lâcher sa vedette et le contrat avec le studio se prolongera jusqu'en 1958. Sa séduction est exploitée à foison dans des comédies sentimentales pour ados, mais son obstination et sa farouche volonté d'indépendance vont finir par payer. À 17 ans, elle s'émancipe et épouse Conrad Hilton Jr., l'héritier de l'Empire hôtelier. Un mariage très hollywoodien en présence de toute la mecque du cinéma. Gary Cooper, Lana Turner et Spencer Tracy qui jouaient son patriarche bougon dans le bien nommé « Le père de la mariée ». Mais le conte de fées se transforme bien vite en cauchemar et l'actrice demande le divorce 6 mois seulement après avoir convolé. Le début d'une longue série. Son obstination va s'avérer véritablement payante lorsqu'elle parvient à convaincre le réalisateur George Stevens de la choisir pour jouer le rôle d'une riche héritière capricieuse et mondaine dans Une place au soleil en 1951. Grâce au succès du film, elle change de statut, ses talents d'actrice sont enfin reconnus, et elle voit aussi ses émoluments grimper significativement. Elle gagne désormais 5000 dollars par semaine. Le film fait prendre un virage décisif à sa carrière. Désormais, Elisabeth Taylor n'est plus l'adolescente souriante de films inoffensifs, mais une actrice de premier plan, au pouvoir de séduction foudroyant. Après avoir retrouvé George Stevens pour Géant en 1956, entouré de James Dean et de Rock Hudson, qui va devenir un ami proche, elle décroche l'année suivante le rôle-titre de la superproduction L'Arbre de Vie d'Edward Mitrick, aux côtés de Montgomery Clift, qu'elle avait rencontré sur le tournage d'Une place au soleil. Une complicité amicalement amoureuse va se nouer entre eux. À propos de sa rencontre avec Clift, elle déclara « Pour la première fois, j'ai pris mon travail au sérieux ». Le tournage de L'Arbre de Vie est interrompu pendant 2 mois à la suite d'un terrible accident de voiture survenu à Montgomery Clift après une réception donnée par Elisabeth Taylor. Avant de prendre le volant, il absorba un mélange de barbiturique et d'alcool. Il se brisa la mâchoire et la moitié du visage, et malgré la chirurgie plastique, l'accident lui laissa de graves séquelles. Alertée, Elisabeth Taylor sauva la vie de l'acteur en lui retirant les dents qui l'étouffaient. Malgré cette terrible épreuve, le duo se retrouvera une troisième fois à l'écran dans « Soudain l'été dernier » de Joseph Mankiewicz, qui adapte la pièce de Tennessee Williams. Une photo du tournage du film en dit long sur le lien qui les unissait. On y voit Elisabeth Taylor, lunettes noires à la Jackie, petit foulard 60s, pantalon cigarette, les jambes négligemment posées sur une chaise, allongée à côté d'elle, la tête alanguie sur ses cuisses, Monty Clift. Montgomery Clift devait initialement interpréter le major Pennington dans « Reflet dans un œil d'or » de John Huston quelques années plus tard. Mais les assurances doutaient de sa santé physique dont la solidité était nécessaire au personnage. Elisabeth Taylor renonça même à son salaire pour lui assurer le rôle. Âgé de 45 ans, affaibli par de longues années de maladie, il mourut d'une crise cardiaque peu de temps avant que ne débute le tournage. Voilà comment la star décrivait Montgomery Clift dans cette interview donnée pour la télévision française au lendemain de la mort de l'acteur en 1966.
C'est dans les studios de Dino De Laurentiis où elle tourne actuellement avec son mari Richard Burton les dernières scènes de film La Neige est apprivoisée que nous avons pu joindre Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor que vous voyez là en costume de scène, car pour parler de son camarade disparu, elle n'a pas voulu modifier quoi que ce soit de son costume de travail, dirons-nous. Tout le monde sait, madame, combien vous avez été bouleversée par la mort de Montgomery Clift, au point que nous avons hésité à vous demander de participer à cette émission d'hommage à l'acteur disparu. Merci d'avoir accepté.
Il m'est très difficile de parler maintenant d'une manière cohérente de Montgomery Clift. C'était mon ami le plus cher. Je l'aimais tendrement. Et il m'est très difficile de vous faire un tableau fidèle de ses qualités. De ses qualités en tant qu'ami et en tant que comédien. Je peux simplement dire qu'aux États-Unis, c'était l'acteur le plus sensible et le plus intelligent avec lequel j'ai jamais travaillé. En tant qu'ami, il me manquera terriblement.
Si Elizabeth Taylor dégage un fort pouvoir de séduction et enchaîne les mariages et les divorces, ses personnages à l'écran se heurtent souvent à l'insensibilité des hommes. En 1958, elle tourne sous la direction de Richard Brooks, La chatte sur un toit brûlant, d'après la pièce de Tennessee Williams. Elle y interprète une femme frustrée car son mari, joué par Paul Newman, n'accomplit pas son devoir conjugal sous prétexte qu'il a le pied dans le plâtre. Contrairement à la pièce, l'homosexualité du personnage de Paul Newman a été délibérément gommée par Richard Brooks, qui défend son choix et son parti pris, comme il explique ici. J'ai essayé de conserver toutes les intentions. Je n'avais pas l'impression que la question de l'homosexualité, latente ou évidente, était indispensable pour l'histoire. De plus, dans un théâtre, vous avez une audience conditionnée, mais si au cinéma vous voyez un homme à l'écran, qui passe son temps à dire qu'il n'a pas envie de coucher avec Elizabeth Taylor, alors le public commence à siffler. Ils ne peuvent pas s'identifier avec le héros parce que eux, ils ont envie de coucher avec Elizabeth Taylor. Mais si Paul Newman disait « Non ma chérie, je pense à Skyper », la salle éclaterait de rire. Il a fallu que je trouve une dramatisation du refus. Non parce que Paul Newman est incapable de l'aimer, mais parce qu'il la considère comme responsable de la mort de Skyper. Deux semaines après le début du tournage de La chatte sur un toit brûlant, le producteur Mike Todd, le nouveau mari d'Elizabeth Taylor avec lequel elle vient d'avoir une fille prénommée Elizabeth Francis, lui propose de partir en avion à New York pour le week-end. Souffrante, elle ne peut le rejoindre. Le 22 mars 1958, l'avion du producteur s'écrase dans les montagnes du Nouveau-Mexique. La star est dévastée et quitte le tournage du film. Elle n'a plus d'appétit, ne dort plus, est au bord du suicide. Ne sachant pas si sa vedette reviendra sur le plateau, Richard Brooks décide de continuer le tournage sans elle, modifiant le plan de travail et tournant les scènes dans lesquelles Elizabeth Taylor n'apparaît pas. Cette situation va durer trois longues semaines avant que l'actrice ne réapparaisse et décide de terminer le film. Le plateau de tournage devient alors son lieu d'exutoire. Cette relation troublée avec les hommes à l'écran, Elizabeth Taylor ne va cesser de l'entretenir, et particulièrement dans Reflet dans un œil d'or en 1967. Elle est Leonora, la femme frustrée d'un militaire, le major Pemberton, interprété par Marlon Brando, qui est un homosexuel refoulé. Elle pratique l'adultère avec un voisin, le lieutenant-colonel Morris, dont l'épouse est perturbée par la naissance d'un enfant anormal. Reflet dans un œil d'or est une œuvre déviante et étouffante, brillamment mise en scène par John Huston, qui avait des idées très arrêtées sur le traitement qu'il voulait donner à l'image de son film. En effet, avec l'aide de son directeur de la photographie Aldo Tanti, il imagina un étalonnage des couleurs faisant écho au thème doré de l'histoire et parvient à concrétiser cette ambition grâce à un traitement spécial de la pellicule, teinté dans un mélange de blond sépia. Un parti pris audacieux qui dérouta les spectateurs et les critiques au moment de la sortie du film et ne plut pas franchement au studio qui décida de retirer les copies en circulation pour une version plus conventionnelle.
A story that shows you what people do to each other. In the name of love. Reflections in a Golden Eye stars the Elizabeth Taylor who showed the world what a woman really is. Reflections in a Golden Eye stars the Marlon Brando who has shown you how powerful and dynamic a great actor can be. Reflections in a Golden Eye, directed by John Huston, who has directed some of the finest motion pictures of our time. Taylor, Brando. Now, a love story may never mean the same thing to you. Again.
Lousy bastard! Beating my horse!
The Major, he knew what his wife needed, and it wasn't him.
I think you'd better go up to your wife's room. She's not alone. My husband is with her.
The Major was everybody's idea of how tough and cool a military man should be. Until those few seconds when he thought he was going to die. When he saw what he was, what he wanted, and what he'd have to do to get it. Leonora, the kind of woman every man can have. Except her husband.
Leonora isn't only deceiving her husband. She is deceiving you too, with an enlisted man.
Williams, the enlisted man, who knows all about one kind of wild animal. Now he will discover another kind. Langdon, the colonel, who had the roughest job in the army, taking care of the major's wife.
Not here now.
Allison, the colonel's wife. She does not desire. She does not lust. She watches those who do. These are the people who see what they love and what they hate in reflections in a golden eye. This is what happens to people who cannot help the things they feel or the things they do to each other. These are the stars who have never done what they do now. In reflections in a golden eye.
Mais Elizabeth Taylor avait déjà touché une mine d'or quelques années plus tôt dans un film qui allait faire d'elle un mythe. En cette année 1960, le projet qui fait le tour du tout Hollywood, c'est Cléopâtre. La superproduction de la 20th Century Fox agite le monde du cinéma qui se demande qui va être l'interprète de la reine d'Égypte. Alors qu'elle prend tranquillement son bain, Elizabeth Taylor reçoit un appel du studio la suppliant d'accepter le rôle. Elle ne veut pas faire le film, estimant le scénario médiocre. C'est alors qu'elle lance, mi-amusée, mi-bravache, « Écoutez, je veux bien le faire pour $1 million. » $1 million. Aucune star n'avait encore obtenu un tel cachet. Et à la stupéfaction de l'actrice, le studio accepta. C'est le réalisateur Robert Mamoulian qui est choisi pour mener à bien cette gigantesque entreprise qui nécessita 2 ans de préparation. Le tournage débute dans les studios de Pinewood à Londres le 30 septembre 1960. Mais l'actrice supporte mal le climat de la perfide Albion. Sa santé se dégrade de plus en plus et le tournage prend un retard considérable entre dépassement de budget, réécriture du scénario incessante et pluie torrentielle. Elle finit par être victime d'une pneumonie et une trachéotomie d'urgence est effectuée pour lui sauver la vie. La presse fait alors circuler une rumeur selon laquelle la star serait morte. Mais elle survit et doit se reposer durant plusieurs mois. Le tournage est arrêté puis reprend en septembre 1961 à Rome cette fois, dans les studios Cinecittà, avec un nouveau réalisateur. Joseph Mankiewicz, l'un des plus grands cinéastes de l'âge d'or hollywoodien, oscarisé pour All About Eve et avec lequel Elizabeth Taylor a déjà tourné soudain l'été dernier, remplace Robert Mamoulian. Le casting change aussi, Stephen Boy est remplacé par Rex Harrison en César et Richard Burton prend la place de Peter Finch dans le rôle de Marc-Antoine. Le budget alloué au costume d'Elizabeth Taylor est pharaonique, d'un montant de $195 000 pour les 65 costumes de l'actrice. Sa garde-robe incluant même une robe réalisée avec de l'or 24 carats. Le tournage s'achève enfin à l'été 1962, ayant vu son budget exploser pour atteindre les $44 millions. En prenant en compte l'inflation, Cléopâtre demeure toujours l'un des films les plus chers de tous les temps, équivalent à près de $300 millions aujourd'hui. Joseph Mankiewicz pense qu'il a trop de matériel pour un seul film et propose de le diviser en 2 films de 3 heures. Mais le producteur Daryl Zanuck refuse, s'empare des bobines et fait faire un montage d'environ 4 heures.
Matters I have no intention of discussing publicly.
I do not grant private audiences to unidentified persons.
I am Marcus Antonius.
I know who you are. What are you at the moment?
Envoy of Rome, proconsul of all the Roman Empire to the east of Italy.
An impressive title.
Worthy, perhaps, of a private audience.
Without a treaty of alliance with Egypt, you could not hold the territories under your command. True?
Possibly.
Then, Lord Antony, you come before me as a suppliant.
If you choose to regard me as such.
I do. You will therefore assume the position of a suppliant before this throne. You will kneel.
I will what?
On your knees.
You dare ask the proconsul of the Roman Empire?
I asked it of Julius Caesar. I demand it of you. Now, you may have the treaty you asked for on the following conditions. By your authority as proconsul of Rome, you will cede to Egypt immediately the following territories: Judea, Jordan, Armenia, Phoenicia, the provinces of Sinai and Arabia, the islands of Cyprus and Crete.
You ask for 1/3 of the Roman Empire.
Put it another way. I give to you 2/3.
Most generous. I cannot accept.
I suggest you deliberate further. Perhaps consult with your superior in Rome.
My superior?
Octavian. Caesar Octavian. You have not been dismissed. You are now dismissed.
Le 12 juin 1963, Cléopâtre sort sur les écrans. L'accueil est mitigé, mais le film remplit les salles. Pas assez toutefois pour amortir son écrasant budget qui met à mal les finances de la Fox. Le contrat d'Elizabeth Taylor stipulait que son salaire serait versé de la façon suivante. $125,000 pour les 16 semaines de tournage et $50,000 en plus par semaine. Quand le film est retourné à Rome en 1961, elle a déjà gagné plus de $2 millions. Elle gagne le procès intenté par la Fox contre elle et Burton et remporte finalement $7 millions, une somme astronomique pour l'époque. Le film remportera plusieurs Oscars, mais l'actrice sera copieusement snobée par l'Académie. Mais elle va prendre sa revanche en 1966 grâce à Qui a peur de Virginia Woolf, réalisé par Mike Nichols. Le jeune réalisateur a la lourde tâche de diriger le couple le plus inflammable d'Hollywood, Elizabeth Taylor et Richard Burton, qui vivent une passion volcanique depuis le tournage de Cléopâtre et qui ont tourné depuis plusieurs films ensemble. Qui a peur de Virginia Woolf est l'adaptation de la pièce de théâtre d'Edward Albee qui met en scène un couple au bord de la rupture. De retour d'une réception, ils invitent un jeune couple pour finir la soirée. Dès leur arrivée, ils se querellent et l'alcool aidant, le ton monte.
You stay right where you are. Make my hubby a drink.
I don't think I will.
No, Martha, no. That would be too much. I mean, he's your houseboy, baby, not mine.
I'm nobody's houseboy.
Now.
Now.
I'm nobody's houseboy now.
Vicious children, huh?
They're right. Vicious children with their oh-so-sad games, hopscotching their way through life, etc., etc. Is that it?
Something like that.
Screw baby.
Oh, him can't. Him too full of booze.
Really? Here, dump these in some gin.
Oh!
What a terrible thing to do to Martha Snapdragon.
Is that what they are?
Yep, and here I went in the moonlight all the way to Daddy's greenhouse to pick them for her.
There is no moon. I saw it go down from the bedroom.
From the bedroom? Well, there is a moon.
There is no goddamn moon. The moon went down.
That may very well be chastity, but it came back up.
Bull.
Once when I was sailing past Mallorca, the moon went down, thought about it for a while, and then pop, came up again, just like that.
That is not true. That is such a lie.
You must not call everything a lie, Martha, must she?
Hell, I don't know when you people are lying or what.
You're damn right.
You're not supposed to.
Right.
At any rate, I was sailing past Mallorca, and the moon...
You sail past Mallorca?
Martha?
You were never in the Mediterranean at all, ever.
I certainly was. My mommy and daddy took me there as a college graduation present.
Nuts!
Was this after you killed them?
Me?
Yeah. And maybe not, too.
Jesus.
Truth and illusion. Who knows the difference, eh, Toots? Eh, houseboy?
I'm not a houseboy.
Look, I know the game. You don't make it in the sack, you're a houseboy.
I am not a houseboy.
Then you must have made it, yes? Yes? Somebody's lying around here. Somebody's not playing the game straight. Come on, come on. Who's lying? Martha, come on.
Tell him I'm not a houseboy.
No, you're not a houseboy.
So be it.
Truth and illusion, George. You don't know the difference.
No, but we must carry on as though we did.
Liz Taylor se sent tellement proche du rôle qu'elle s'investit comme elle ne l'avait encore jamais fait. Elle n'hésite pas à se vieillir à l'écran, porte des prothèses, des faux bourrelets et prend 10 kilos. Une performance qui lui vaudra de décrocher le deuxième Oscar de sa carrière après la Vénus au Vison. Mais la star ne viendra pas chercher sa récompense. C'est Anne Bancroft qui alla chercher la précieuse statuette pour elle. Après ce coup d'éclat, qui n'a pas forcément bien vieilli avec les années, la carrière de l'actrice commence à décliner. Malgré des incursions devant la caméra de Joseph Losey et George Cukor, Elizabeth Taylor, devenue démodée, ne rencontre plus le succès au cinéma et fait davantage les choux gras de la presse à scandale. Richard Burton et elle vivront ensemble pendant 10 ans, de 1964 à 1974, mais leur union passionnée se conclura par un divorce. Un an et demi après s'être séparés, ils se marient une deuxième fois, puis se quittent à nouveau, éreintés par tous leurs excès. Le couple dépensa des millions en manteaux de fourrure, Rolls-Royce, yacht et même un jet privé à 900 000 dollars, sans compter les bijoux, le péché mignon de l'actrice, que Burton aimait amoureusement lui offrir. Après ce qui restera certainement comme la plus grande histoire d'amour de sa vie, Liz se mariera à nouveau et divorcera encore. À ce propos, elle déclara lors de ses huitièmes noces, en 1991, « Le mariage, c'est comme le menu des restaurants. Il faut attendre la digestion pour savoir si on a fait le bon choix. » À la mort de son ami Rock Hudson en 1985, emporté par une maladie mystérieuse dont on n'osait pas encore prononcer le nom, Liz Taylor fonde l'AMFAR avec les chercheurs Mathilde Cream et Michael Gottlieb, une fondation ayant pour but le financement de la prévention et de la recherche médicale contre le sida. Le gala de l'AMFAR devient un événement incontournable du Festival de Cannes, comme en 1993 où l'actrice présenta l'opération Cinéma contre le sida. Voici ce qu'elle disait de son combat contre la maladie dans ce reportage de la télévision française.
I come before you today.
Ce n'est pas l'actrice qui vient devant vous aujourd'hui, mais la représentante de tous ceux qui sont touchés par le sida. Je suis l'avocate de l'enfant qui meurt dans un pays pauvre. Je suis la voix du toxicomane qui se pique dans les quartiers défavorisés. Je suis la déléguée de la prostituée des rues de vos grandes villes. Je vous demande simplement d'aider tous ceux qui ne peuvent pas parler. On n'a plus le temps de se déchirer, on n'a que le temps de travailler ensemble.
Les dernières années de l'actrice furent des années de souffrance, épuisée par des problèmes de santé à répétition et les séjours dans les hôpitaux californiens. On l'a crue morte plusieurs fois, ce à quoi elle avait malicieusement rétorqué « On m'a déclarée morte, j'ai même lu mes propres nécrologies, je n'avais jamais eu d'aussi bonnes critiques ». Et pourtant, Liz Taylor s'éteindra bien d'une insuffisance cardiaque le 23 mars 2011, à l'âge de 79 ans. L'actrice faisait preuve d'un sens de l'humour indéniable, même outre-tombe. Alors qu'elle était réputée pour ne jamais être à l'heure, elle avait laissé des instructions précises pour que ses funérailles commencent avec 15 minutes de retard sur l'horaire prévu, car elle voulait être en retard à son propre enterrement. Elizabeth Taylor, la star parmi les stars. C'était une histoire de cinéma, une émission revue et corrigée, le média consacré à l'actu des classiques du cinéma. Merci au Mouvement Up, média et producteur de podcasts. Retrouvez une histoire de cinéma sur toutes les plateformes de podcasts et sur le site de Revue et Corrigée. Revue et Corrigée vous donne rendez-vous la prochaine fois pour Silence, elle tourne, animé par Esther Brejon sur les femmes oubliées de l'histoire du cinéma. Et moi, je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau chapitre.